Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode pilote du Top Cartouche. Salut Lou.
Salut Yann.
Aujourd'hui donc, on va vous parler des 5 meilleurs quelque chose. On a chacun établi une sélection ordrée de 5 à 1. On va chacun y aller dans l'ordre inverse, c'est-à-dire ton numéro 5, mon numéro 5, etc., etc. Après, on parlera évidemment de nos mentions honorables, des petits trucs en plus qui n'ont pas réussi à intégrer la liste des 5 premières. Et le thème de cet épisode, la sélection qu'on a établie, s'est faite sur la consigne des 5 meilleurs. Intro, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'était facile pour toi de lister tout ça?
Alors, le thème, c'était une idée que j'ai eue comme ça en discutant pendant qu'on
5 meilleurs intros de jeux vidéo, je vous rappelle.
Ouais, voilà, qu'on évoquait du coup. Les sujets qu'on pourrait faire, et ça m'est venu parce que j'ai pensé à un jeu qui vraiment m'avait beaucoup marqué en fait dans son intro et qui est pour moi la meilleure intro. Et
On n'en parle pas pour l'instant, pas de spoiler,
bien évidemment, mais pour le reste c'était assez facile, je dirais, de trouver certains jeux. Après, les départager, ça a été assez dur parce qu'évidemment, enfin, ça fait très longtemps que je joue et il faut essayer de se souvenir un petit peu des effets que ça a produit à l'époque, parce que j'essaie de faire des jeux aussi qui ne sont pas forcément extrêmement récents. Mais voilà, c'était pas forcément évident en fait après de hiérarchiser tout ça. Et toi, ça s'est passé comment?
C'est intéressant. C'était plus effectivement le fait d'établir une shortlist non ordrée des jeux qui avaient l'intro, qui ont l'intro la plus intéressante, qui a été plus difficile parce qu'il faut se souvenir des centaines de jeux auxquels tu as joué dans ta vie. Et je pense que ce sera un running gag dans cette émission. et c'était un petit peu, à quoi est-ce joué? Est-ce que c'était bien? Sauf que là, évidemment, c'est un truc. Au contraire, si on dit par exemple, on va faire un truc sur les 5 meilleurs Mario Party, c'est assez facile de lister les Mario Party, de se dire, bon, au moins, on ne choisi que parmi 12-15 options. Là, il y avait effectivement plusieurs centaines d'options qui étaient disponibles. Tous les jeux auxquels j'ai joué, tous les jeux en tout cas sur lesquels j'ai fait l'intro, ce qui rassemble quand même beaucoup de choses. Volontairement, je t'ai pas posé une question parce que quand on s'est mis d'accord sur le thème, je ne t'ai pas demandé si par intro on parlait de cinématique d'intro ou si on parle de séquence d'intro, ouais, y compris avec du gameplay. Donc dans ma sélection, il y a des deux.
Moi aussi.
Il y a des cas où ça ne concerne que de la cinématique. Alors c'est intéressant parce que dans ce cas-là, on a de l'hybride dans les deux cas.
Et en fait, je me suis posé la question. Je me suis moi-même posé la question. Je me suis dit, est-ce que ça rentre finalement dans l'intro? Et après, je l'ai pris quand même au sens un peu plus large. Et parce que évidemment, les intros à l'époque dans les vieux jeux, c'était quand même beaucoup plus succinct.
Oui, on a beaucoup fait Madame Irma par rapport à ça, mais finalement on est tombé sur la même conclusion, je suis assez satisfait. Et alors, si vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant, je vais vous le dire vraiment très clairement, non seulement on s'est pas forcément complètement mis d'accord sur déjà qu'est-ce que voulait dire le thème une fois que le terme a été fixé, mais surtout on ne sait pas la liste de l'autre.
Et ça c'est vraiment le point le plus exciting, je dirais, de cette émission.
Est-ce que tu veux que je commence?
Écoute, je t'en prie, à toi l'honneur.
Mon numéro 5, il s'agit de BioShock Infinite. Ce qui est peut-être un peu surprenant quand on entend parler, parce que c'est pas forcément le genre de jeu auquel j'aspire. J'ai eu l'occasion de jouer au premier BioShock également, le deuxième pas tellement. Je l'avais commencé, mais son intro m'avait pas particulièrement marqué. Je trouve que le début de BioShock Infinite, vous arrivez dans la barque. Vous êtes un petit peu forcé d'aller dans ce phare, et le moment où vous allez vous mettre dans la nacelle et décoller et découvrir le monde, la ville cachée dans les cieux, est un moment de légèreté incroyable. Le premier BioShock a marqué toute une génération de joueurs. Je suis juste un petit peu trop jeune pour avoir été marqué par ça, pour avoir été le public de cette fameuse intro, même si j'ai joué au jeu par après. Mais véritablement, BioShock Infinite, vous plongez dans ce monde-là et ensuite vous êtes dans une Amérique différente, là aussi une Amérique au délire complètement barrée, que ce soit visuellement, que ce soit dans l'attitude des gens. J'ai vraiment trouvé ça, enfin j'ai trouvé que c'est vraiment une introduction dans le gameplay qui te plonge à merveille dans un thème où en fait tu vas commencer c'est la catastrophe. Tu es catapulté en haut, tu sais pas vraiment ce qui t'arrive. Ensuite, tu es un petit peu ressuscité d'un point de vue symbolique avec un baptême, on te plonge dans l'eau. C'est quelque chose de très réussi. C'est ce qui fait là aussi la renommée du jeu, à mon avis, c'est sa forte qualité thématique. Et cette forte qualité thématique là, elle est donnée non pas nécessairement par le gameplay du pampan boom boom de BioShock Infinite, mais plus par ses phases cinématiques et ses phases cinématiques teintées de gameplay telles que BioShock Infinite, parce que finalement ça ressemble pas mal à une approche type Half-Life où des choses se passent autour de vous. C'est techniquement une cinématique, mais vous avez la possibilité d'aller guigner ici et là, de tourner la tête d'un mouvement de souris, etc., etc. Donc très clairement pour moi, BioShock Infinite numéro 5, c'est une valeur sûre des débuts de jeu.
C'est une qualité d'écriture et d'immersion qu'on retrouve de toute façon de manière générale dans toute la série BioShock que je conseille bien évidemment. Mais ce n'est pas mon numéro 5, figure-toi. Mon numéro 5, c'est Mario 64, Super Mario 64, sorti sur Nintendo 64. Alors, l'introduction est vraiment toute simple. C'est vraiment l'Akitu sur son petit nuage qui traverse du coup le château de Peach, qui passe sous le pont avec un petit bruit. Je me souviens de ce petit bruit genre d'accélération. Exactement. C'était et après tu
les gens
vois...
qui regardent des speedruns, les gens qui regardent des speedruns de Mario 64 connaissent cette intro par cœur.
Exactement. Et après tu as cette espèce de fusion de la caméra du jeu entre guillemets avec la caméra de l'Akitu, ce qui te fait comprendre en fait que la caméra c'est ce l'Akitu qui te suit en fait finalement. Chose que tu revois plus tard quand tu croises un miroir et qui est, je trouve, un détail absolument adorable. Et j'ai pris du coup, en parlant d'introduction, également cette espèce de hub en fait finalement, enfin ce pré-hub, puisque le véritable hub c'est l'intérieur du château de Peach, mais cet extérieur en fait qui te permet d'expérimenter finalement la 3D. Et quelle rencontre avec la 3D, moi ça m'avait marqué, je me souviens, j'avais essayé en fait le jeu à Auchan avec mon cousin, donc il y avait le vendeur qui avait descendu la manette et je voyais le jeu sur ce petit écran cathodique. À l'époque c'était un grand écran, mais pour maintenant ça ferait un très petit écran en haut et tout. Et c'était une chance de pouvoir jouer quand même dans son Auchan à l'époque. Et j'étais complètement fasciné en fait par cette découverte, cette maîtrise de la 3D, par ce stick qui permettait des mouvements nouveaux. Et tout a été pensé en fait finalement pour que tu puisses expérimenter en fait les triples sauts, s'accrocher aux arbres, monter sur les arbres, sauter depuis les arbres et puis la plongée. Il y avait cette espèce de petit bassin, tout ça. L'endroit est très restreint. Mais en même temps, c'est un énorme bac à sable, en fait, pour l'époque. Et ça, je trouvais ça extrêmement fascinant et ça m'a vraiment beaucoup marqué. C'est très, très simple, mais c'est très efficace pour maîtriser. Ça me fait penser, en fait, finalement, au tout premier niveau de Super Mario Bros, avec ce côté un petit peu didactique et ludique en même temps. Et là, on retrouve, en fait, je trouve ces racines très Nintendo-esque, on va dire, dans la façon dont ce jeu se déploie, en fait, dès son début. Super Mario 64 qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais minot.
Bien, bien, merci pour ce petit flashback. Plus qu'une intro à Mario 64, c'est presque une intro au jeu de plateforme en 3D en vérité.
Tout à fait.
Ce début. C'est bien noté. Pour ma part, on va être dans un genre complètement différent. On reste, en ce qui me concerne, dans des univers un petit peu tristes, hein, un petit peu violents. Puisque mon numéro 4, il s'agit de Telltale The Walking Dead saison 1. Saison 1, épisode 1, les 10 premières minutes que j'avais fait au tout départ sur iPad parce que c'était gratuit sur iPad et mais que j'ai refait ensuite évidemment sur quantité de support, surtout sur ordinateur portable par la suite. C'est ce qui m'a vendu la licence Telltale The Walking Dead. C'est ce qui m'a de manière générale attiré vers les productions Telltale qui ont eu évidemment des hauts et des bas mais qui ont connu d'autres hauts avec notamment The Wolf Among Us que je vous recommande également. J'y ai pensé aussi mais qui a une intro beaucoup plus lente en fait. Il faut être vendu sur le principe des jeux Telltale pour ensuite s'intéresser à The Wolf Among Us, là où Telltale Walking Dead lui commence doucement. Vous êtes cette personne ramenée dans un véhicule de police, vous avez été arrêté visiblement pour violence et il va se passer l'inimaginable. Le monde très doucement bascule dans la crise puisque les zombies commencent à infecter les différentes villes. Votre véhicule se retourne, le policier meurt et devient un zombie et c'est à vous de vous sauver. Et toute cette introduction là, à commencer par les dialogues et à voir les différents effets des différents arbres de dialogue sur le policier puis sur les autres personnages que vous allez rencontrer rencontrer ensuite. J'ai trouvé ça mais extrêmement bien joué, l'art du suspense, l'art de faire beaucoup avec peu, parce que le moteur de jeu Telltale de cette époque-là, il est quand même assez dépouillé. J'ai trouvé ça vraiment maîtrisé, et c'est pas surprenant qu'une partie des gens qui ont fait Telltale Walking Dead saison 1 sont partis ensuite chez Camposanto faire Firewatch, qui est un excellent jeu qui, là aussi en termes d'introduction, c'est pas idéal. Ils ont tenté autre chose avec un espèce de petit QCM qui va structurer un petit peu une base de l'aventure dans Firewatch, là où Telltale Walking Dead rentre vraiment dans le vif du sujet. Je trouve que c'est finalement la meilleure porte d'entrée à la fois pour les jeux Telltale et à la fois pour la licence Walking Dead. Donc excellente quatrième position pour cette saison 1 de The Walking Dead. Allez, on attaque avec ton choix numéro 4, je crois, Lou.
Alors écoute, je reste chez Nintendo. Est-ce que tu aurais pu t'en douter du coup? Mon quatrième, c'est...
Ça va être un jeu Pokémon, non?
C'est The Legend of Zelda.
Ah,
A Link to the Past. C'est bien A Link to the Past, donc sorti sur Super Nintendo. Alors pourquoi? Pourquoi
l'introduction... Le bruit de la pluie, le bruit de la pluie dans une Super NES, le bruit de la pluie qui tombe sur un toit en bois.
Ça a énormément joué en fait. C'est une intro extrêmement simple en apparence, c'est-à-dire qu'on est réveillé en fait par une voix, par de la télépathie. C'est Zelda qui nous parle, elle est retenue prisonnière,
Link.
Elle veut qu'on vienne du coup la sauver dans le château d'Hyrule. Là, sur ce, on voit l'oncle qui se lève et qui sort de la maison, et nous, on est là, on sort, on entend effectivement la pluie à l'extérieur, on ouvre, et là, c'est une nuit orageuse. C'est une ambiance assez particulière, en fait. C'est une ambiance, en fait, que j'aime parce que tu ressens beaucoup de solitude, en fait, à ce moment-là. Tu es vraiment seul dans ce monde sombre, ce monde froid, ce monde nocturne en plus. Tu ne peux rien faire, tu suis des pas, en fait, des pas dans la boue, et tu te retrouves là, tu croises l'oncle, malheureusement, qui est mourant et qui te lègue son épée, et l'aventure commence. Mais je trouve qu'il y a cette espèce de... C'est un début de parcours initiatique, mais de manière extrêmement rapide, en fait. Ça dure à peine 30 secondes, en fait, finalement, le début. Mais t'as un contact, du coup, avec ce monde qui est très froid et qui te dit il va se passer de grandes choses et t'as pas le temps de réfléchir, il faut que tu te lances en fait dans l'aventure. C'est vraiment, c'est le saut de la foi quoi, c'est leap of faith carrément.
Pour
et
moi,
ça m'a
pour
vraiment
moi l'introduction
marqué.
Pour moi, l'introduction, elle va jusqu'au temple où tu amènes Zelda au gardien du temple. C'est une longue intro. Pour un jeu Super Nintendo, c'est un jeu qui prend son temps pour passer, baser son univers et pour donner une unité de lieu cohérente, notamment au palais de Zelda, je trouve, au palais royal. Je trouve ça extrêmement réussi. Cette introduction-là t'introduit à un monde et t'introduit à sa géographie de manière extrêmement élégante.
Bah en plus, on te plonge directement dans un donjon. En fait, certes, un petit donjon qui va t'apprendre les rudiments, genre les clés, machin.
Et où tu t'infiltres, bombes. Ce qui arrive pas vraiment, ce qui arrive quasiment pas dans le jeu ensuite, d'ailleurs.
Donc c'est extrêmement intéressant. Et même moi, c'est juste ces 30 premières secondes et surtout la musique. Clairement, la musique a été pour beaucoup, et en fait vous le verrez, le point commun que j'ai réussi à découvrir en fait finalement à travers chacune des introductions des jeux que j'ai retenu, c'était la musique. Et je m'en étais jamais rendu compte à quel point la musique dans une introduction, et de manière générale, j'adore les musiques de jeux vidéo, mais pour le coup ces intros m'ont vraiment marqué en général à cause de la musique ou des effets sonores, de l'ambiance sonore qui arrive à être posée, comme tu l'as souligné justement, avec la pluie, et ça on le verra dans la suite de mon top.
Alors, il va se passer un truc amusant, parce que mon numéro 3 a un 2 dans le titre, et mon numéro 2 a un 3 dans le titre. Donc, attendez-vous un petit peu de confusion. Mon numéro 3, il s'agit d'un jeu Game Boy Color, ce qui est étonnant après avoir des jeux aussi high-tech qui ont pavé le reste de ma liste jusqu'à maintenant. Il s'agit de Wario Land 2.
Oh.
Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné Wario Land 2 en spécifique en meilleure intro? Parce que le jeu cache une superbe idée de non pas de level design, mais même de structure méta level design, de structure de niveau à niveau, de world design en quelque sorte. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wario Land 2 est un jeu de plateforme développée par Nintendo qui fait suite à Super Mario Land 3 ou Wario Land, où là encore vous incarnez Wario, et qui va devoir en gros trouver du trésor quelque part, se venger de la chef des pirates qui essaie de lui chourer son pactole et de le dégager de son château à lui, ce qui est quand même assez triste comme destin. Et en fait le jeu commence et Wario dort sur son lit. Normalement, tout joueur normalement constitué va appuyer sur un bouton, faire sauter Wario, donc le faire se réveiller et le faire avancer dans le niveau pour aller défendre un petit peu sa bicoque. Mais il peut se passer quelque chose. Si vous n'appuyez sur rien pendant un certain temps, votre réveil va continuer de sonner jusqu'au moment où Wario va continuer de dormir et il va se faire dégager par les monstres. Et là commence une autre série de niveaux que celle que vous auriez dû avoir si vous avez commencé à jouer normalement. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, on prend une autre branche de sélection de niveaux et on va atteindre une première fin qui est une fin courte. Car oui, Wario Land 2 est un jeu dans lequel différentes options que vous prenez, différents choix que vous faites au fur et à mesure de l'aventure, et par exemple rester dormir au tout début du jeu en est un, vous emmène sur une branche différente et donc sur des niveaux différents, vers une fin différente. Alors il est clair que cette branche là se finit assez rapidement, mais en tout cas une fois que vous finissez le jeu pour une première fois, vous voyez quel parcours vous avez fait et vers quel autre parcours vous pourriez aller. On vous explique pas comment, mais on vous dit juste il y a d'autres possibilités, rejouez-y et essayez de trouver une autre façon d'interagir avec le niveau pour faire ça une fois qu'on le termine une première fois. Donc c'est assez marrant de voir, par exemple, pour quelqu'un qui joue le jeu normalement, qui fait toute une flopée de niveaux, qui arrive à la fin, qui bat le boss et ensuite qui recommence pour voir que le premier niveau c'est bizarre, il y a un embranchement dès le premier niveau qui va vers autre chose, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ça c'est quelque chose d'assez rigolo et de super intelligent derrière un jeu qui un jeu de plateforme tout simple, bien réussi, mais tout simple, d'avoir cette structure-là qui est complètement dévoilée dès ce moment-là, pour peu qu'on laisse Wario dormir. J'ai trouvé l'idée vraiment extrêmement élégante, extrêmement intelligente, surtout pour un petit jeu Game Boy Color.
J'avais adoré ce jeu et tu me donnes tellement envie d'y rejouer, il faut vraiment que je le refasse.
Oui, c'est-à-dire, les 4 Wario Land sont extraordinairement bon et chacun pour des raisons différentes. Je trouve que Wario Land 3 est trop difficile cependant. J'utilise le terme extraordinairement bon déjà parce que la série de manière générale mérite qu'on en dise du bien, de 1. Et de 2 parce que Wario Land 3, même si je le trouve trop difficile, je vois plein de gens qui l'adorent, donc je substitue là pour le coup sur ce titre en spécifique mon opinion par celle de la Doxa et par celle des gens en général. Mais Wario Land, en tout cas à mon avis, 1, 2 et 4 sont des titres exceptionnels de plateforme qui chacun joue avec les codes, notamment de la succession de niveaux, du level design, de la structure même du jeu, et qui au-delà de ça proposent des défis super intéressants, de la collectionnite bien planquée et bien répartie à bon escient. Donc voilà, les jeux Wario Land sur Game Boy et Game Boy Color, allez-y, mangez-en. Quel est ton numéro 3?
Alors, mon numéro 3, c'est Resident Evil Outbreak. Eh oui. Donc, c'est un épisode qui est sorti sur PlayStation 2, du coup, si je me souviens bien, effectivement, et qui est un spin-off, en fait, de Resident Evil, dans lequel tu incarnes, en fait, des habitants de Raccoon City qui doivent faire face, en fait, à l'épidémie, qui doivent essayer de s'enfuir, en fait, de différents lieux. Et c'est un jeu intéressant. Il y a eu 2 épisodes, du coup. Et c'est vraiment l'intro du premier qui m'avait vraiment fortement marqué. Déjà parce que la musique est absolument magnifique. Mais aussi parce que c'est son idée même, en fait, que je trouve très intéressante. C'est-à-dire que tu es un rat. Tu es littéralement un rat. La cinématique se passe dans les yeux du rat. Et tu le vois parcourir les égouts et assister, en fait, aux événements, malgré lui, de Raccoon City. Donc, c'est-à-dire des... Les stars, les forces de Raccoon City qui se font tuer, l'attaque des tyrans, etc., des monstres, les zombies, et il passe d'égout en égout et il voit en fait le monde tourner au chaos autour de lui, avec un rythme très particulier dû justement à cette musique extrêmement lancinante, extrêmement aussi pompeuse, je dirais, que j'adore, et en même temps tu as des effets graphiques qui par moments des transitions en fait entre des éléments réels urbains qui se transforment en molécules, en éléments sanguins qui rappellent justement le côté transmission de cette maladie, du virus en fait qui va infecter toute la ville. Et voilà, il y a une espèce en fait de mise en scène incroyable avec en plus les noms qui défilent, c'est-à-dire que ça ressemblait vraiment à un générique de film au final. Et c'est assez amusant parce que le principe même de ce jeu vidéo, est très proche d'un film avec ce côté ben, les survivants qui doivent s'échapper justement de la catastrophe et qui traversent des niveaux extrêmement intéressants. Enfin, je me souviens que le zoo m'avait fortement marqué. Je trouvais ça génial d'éviter des éléphants zombies. C'était vraiment très très cool.
Consubstantiellement, la série Resident Evil est un hommage au film de genre, au film de zombies, etc. Hein.
Et je trouve justement que cette introduction, comme d'ailleurs a pu l'être aussi Code Veronica dans un autre style, cette introduction a vraiment des gènes cinématographiques extrêmement prononcés dans sa réalisation. Et c'est ça qui m'a vraiment séduit à l'époque pour un jeu qui est en fait considéré finalement comme mineur, puisqu'il fait vraiment pas partie de la licence. On l'a oublié clairement aujourd'hui, malheureusement. Mmh. Il n'a pas été très mis en avant, surtout qu'il reposait beaucoup sur le mode en ligne, et malheureusement, il en était amputé justement parce que à l'époque, nos pauvres petites consoles, occidentales en tout cas, enfin surtout en Europe, n'était pas du tout équipé en modem, tout ça, c'était très différent pour nous par rapport au Japon. Donc on a dû profiter d'un jeu avec force temps de chargement, hélas. Mais je vous invite en tout cas à aller voir cette introduction sur YouTube, parce que vous pouvez la trouver très facilement.
Allez, on va sur mon numéro 2 maintenant. Je vous ai promis un jeu qui se termine par 3 dans le titre, et il s'agit de Rayman 3. Encore un jeu de plateforme, là on sent mes petites obsessions poindre. Second Rayman canonique à être en 3D. L'introduction de Rayman 3, à mon avis, se détache des autres, aussi bien des autres Rayman que des autres jeux en général, pour son humour mais corrosif pendant tout le premier chapitre, qui est un chapitre introductif du jeu, où littéralement un des personnages qui est censé t'aider se paye la tronche du manuel. D'ailleurs, le manuel, si vous avez le manuel physique dans la boîte, le manuel lui rend bien, ce qui est une blague qui est poursuivie dans le véritable monde réel du papier imprimé, ce que j'ai trouvé à l'époque vraiment très drôle et aujourd'hui vraiment malin de la part du studio, de la part d'Ubisoft Montpellier, d'avoir poussé le vice jusque-là. Un très bon jeu d'acteur en français aussi, il faut le dire, que ce soit la voix complètement débile de Murphy, la voix, on va dire, de héros, mais de héros un peu à la Sonic pour Rayman, et la voix de gros bonnet pour Globox, de taré un peu pervers pour André. Déjà, appeler ton grand ennemi André, qu'est-ce que c'est comme choix extraordinaire. Mais tout le jeu est drôle. Son introduction, c'est la manière qu'a le jeu de te lancer dans cet univers complètement foutraque, au dialogue qui peuvent être référentiels, hein. Il y a des références par exemple à Hannibal Lecter, certaines références sont plus subtiles que d'autres, parfois c'est juste 1-1, on fait référence à tel truc, 1-1, et c'est vrai que toutes les vannes ne se valent pas. Pour autant, c'est un bel effort d'écriture, comme on en voit assez peu dans le jeu vidéo. On bénéficie, parce qu'on est français, enfin on est francophone en tout cas, et qu'il s'agit d'un studio français qui a mis un bon effort de travail dans l'écriture en français, bah, d'un cas un petit peu à part par rapport à notre langue grâce à ce jeu-là. Donc c'est une vraie expérience. Je pense que si je ne parlais pas français comme langue maternelle, j'aurais pas situé Rayman 3 ici. Parce que ça n'aurait pas eu le même effet sur moi d'un jeu vidéo qui me parle de cette manière-là et qui essaye de me faire rire avec des références que je peux comprendre. Mais voilà, c'est passé comme ça. Je parle français, c'est ma langue maternelle, et donc Rayman 3 est deuxième sur ma liste. Quant à toi, Lou.
Alors je vais jouer encore un petit peu la carte du suspense, en précisant que du coup c'est un Final Fantasy, et bien évidemment c'est le 8. Bien évidemment, parce que Liberi Fatali, une musique, mais enfin, un sens de la mise en scène, là aussi très cinématographique, très dramatique, très élégant, des personnages, une virtuosité vraiment dans la représentation, Edea évidemment, qui est un personnage tellement fascinant, au moins dans les deux premiers tiers du jeu, en tout cas, voilà, enfin, c'est une cinématique déjà qui était une véritable claque à l'époque, évidemment, en termes de technologie. Hein. Final Fantasy, c'était vraiment le porte-étendard de la technologie de la PlayStation. Le 7 l'a été, le 8 l'a été, le 9 l'a été, le 10 l'a été, le 12 l'a été aussi. Enfin bref, Final Fantasy a toujours été à la pointe, en tout cas, d'un point de vue technique. Et le 8, vraiment, dans cette espèce de maestria, dans la façon dont ils ont pu représenter quelque chose une histoire d'amour. C'était vraiment un Final Fantasy construit sur une histoire d'amour. Parfois on dit que c'est un peu mièvre, je trouve qu'en fait au contraire il y a une belle écriture qu'on retrouve dès le début, en fait, dès cette introduction, dès cette tension en fait sur ces destins liés, ces personnages qui sont reliés par la force du destin justement, comme c'est justement le cas dans tous les Final Fantasy. Mais voilà, il y a une espèce de folie, de tempête, en fait, que tu vois dès le début du jeu, dans cette accélération qui est absolument fascinante, en fait. C'est vraiment de la virtuosité. C'est le mot qui me vient le plus quand je vois l'introduction de Final Fantasy VIII. Avec, tout de suite, un gros décalage avec le début du jeu qui est extrêmement calme, extrêmement posé. Donc ça aussi, ça crée des sensations, des sentiments, des émotions assez fortes et une certaine fascination sur là où va t'emporter le jeu. C'est un véritable cyclone, c'est-à-dire que ça commence, ça accélère, c'est très très fou, ça retombe, mais tu sais qu'à un moment, l'aventure va t'emmener très très loin, parce que c'est Final Fantasy, et parce qu'on te l'a montré dès l'introduction. Et là, je trouve que c'est maîtrisé de but en blanc, et c'est pour moi la meilleure intro de tous les Final Fantasy confondus.
Mais ce n'est pas ton intro préféré, il reste un numéro 1 à donner après. Eh bien le tien on verra plus tard, le mien on va le voir maintenant. Mon intro préféré dans un jeu vidéo, c'est un jeu récent. C'est un jeu franchement récent, c'est un jeu sorti en 2017, est-ce que tu peux deviner lequel sur la base de ces informations?
2017?
Oui.
Oh là, est-ce que ce serait pas Super Mario Odyssey?
Non.
Est-ce que ce serait pas Breath of the Wild?
C'est exactement Zelda Breath of the Wild, effectivement. Moi qui ai des bilans assez mi-figue mi-raisin avec les Zelda 3D, je le cache pas, c'est un des jeux que je préfère. C'est un des jeux que je préfère tout court. C'est franchement un de mes jeux préférés. Et son introduction ne déroge pas à cette appréciation-là. Le fait de commencer dans cette petite caverne et puis juste pour découvrir un petit peu doucement les différents contrôles sans trop être dirigé, même si franchement la cave s'étend dans une seule direction et il faut bien en sortir pour progresser. Et cette caméra qui se détache de Link pour un instant pour te montrer le magnifique plateau de départ, qui n'est d'ailleurs que le plateau de départ, cette ouverture finalement à ce monde, à cette liberté, à cette charte graphique également, à cette magnifique gestion jour-nuit, le ciel, les nuages, le soleil, les feuillages, la nature, tout ça, cette immersion, cette première immersion dans le monde de Zelda Breath of the Wild est maîtrisée. Pareil pour la musique qui est à la fois magnifique et qui en même temps ne vient pas tout le temps mais vient uniquement à des moments clés, et très clairement le moment où on t'introduit le monde est un moment clé. Et puis tu commences à repérer un vieil homme, à remplir des quêtes pour lui, tout ça est extrêmement bien amené, je trouve. Certes, être bridé au plateau de départ pour le début du jeu en frustrera certains, et je trouve comme au premier jour qu'une des quêtes que tu es censé faire est peut-être un tout petit peu cryptique sur ce plateau de départ, mais c'est peut-être moi qui ai manqué le bon bouquin comme j'avais expliqué. Toujours est-il que Zelda Breath of the Wild, pour moi, et c'est complètement lié au fait que ce jeu-là est un de mes meilleurs, un jeu vraiment positionné très très haut dans ma cosmogonie du jeu vidéo, Zelda Breath of the Wild est pour moi la meilleure intro de l'histoire du jeu vidéo, de tout ce que j'ai pu y toucher en tout cas. Lou, à toi.
Eh bien, c'est à moi, et du coup, j'en profite pour te dire qu'on a donc aucun jeu en commun, mais on a quand même certaines licences en commun. Donc moi, c'est un jeu qui est sorti en 2009, fin d'année 2009, début d'année 2010. Est-ce que ça te dit quelque chose, à ton avis? C'est un jeu qui appartient à une licence, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, mais il y a un nouvel épisode qui est en préparation, et c'est un jeu que j'adore.
J'allais dire, c'est trop tard pour Portal 1 et c'est trop tôt pour Portal 2. Il n'y a pas de nouveau Portal en préparation, donc lol. Je suis un petit peu... Il y a un nouvel épisode en préparation. Non, là, tu me poses une colle.
Eh bien, écoute, c'est Bayonetta. Bayonetta,
oh,
l'introduction.
Du premier.
Ouais, le tout premier Bayonetta, alors l'introduction. Je m'en souviendrai.
C'est probablement
tout le
temps, parce que je l'ai refait sur 15 supports différents et que c'est un jeu difficile que je l'ai banni, mais c'est vrai que d'un point de vue artistique et musical, il est super intéressant ce début de jeu.
Ah, mais c'est absolument fou. Je m'en souviens, je crois que c'était peut-être un 30 ou un 31 décembre que j'ai eu le jeu. Et j'y ai joué et je l'ai lancé. Et au moment où j'ai lancé, où j'ai vu l'introduction, je me suis dit, c'est le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. C'était une folie. Pareil, ce côté cinématographique, cette musique, cette folie dans les personnages, ce personnage de Bayonetta qui, dès cette introduction, se présente comme justement, d'abord, on a cette espèce de Bayonetta déguisée en nonne, clairement, qui fait une espèce de petite prière sur devant une tombe, avec elle est flanquée d'un sous-fifre un petit peu grassouillé qui fait pipi sur une tombe. D'ailleurs, justement, sur le nom de laquelle il y a Camilla qui se fait pisser dessus. Enfin, donc du coup, c'est assez rigolo. Et d'un coup, tu entends des voix célestes, des anges, et tu dis, il va se passer quelque chose. Et là, Bayonetta s'élève vers les cieux pour se transformer en sorcière furieuse et pour dégommer des anges dans un déchaînement de sadisme, de violence et en même temps de virtuosité, là encore, d'élégance, de la façon dont elle bouge, dont elle se meut, dont la chorégraphie, en fait, complètement du jeu, qu'on retrouve à travers tout le jeu jusque dans les scènes finales, ça m'a complètement bluffé. C'était une véritable jouissance pour les yeux, en fait. Enfin, c'était absolument génial. Et c'était cette surenchère aussi que j'ai adoré quand Rodin, du coup, sort de sa tombe et que Bayonetta lui demande de plus en plus de pistolets. Elle dit « Guns !» Guns, parce qu'elle vide tous les chargeurs. Et voilà, enfin, cette surenchère dès le début. Et c'est un jeu qui joue vraiment la carte de la surenchère. Et c'est pour ça que j'ai envie de voir Bayonetta 3, parce que ça ira encore plus loin, je l'espère. Mais c'est pour moi une introduction. Quand on me dit quelle est la meilleure introduction de jeu vidéo, obligatoirement, je pense à celle-là, parce qu'elle est pour moi parfaitement maîtrisée. Et elle te donne le personnage tout de suite, elle te donne le ton du jeu, elle t'en met plein les yeux. Et elle te fout le peps et elle te met tout de suite dans le combat en plus juste après. Enfin voilà, c'est de la jouissance tout simplement.
Alors, on a fait notre top 5. Dans mon petit bac à cartouches qui est resté, celle que je ne voulais pas oublier malgré le fait qu'elle n'a pas pu rejoindre le top 5, l'intro en question, il s'agit de Super Smash Bros. Melee en ce qui me concerne. Et vraiment, ça, c'est une intro purement cinématique. C'est la pure hype, cette intro cinématique. C'est évidemment limité au casting de Smash Bros. Melee, qui comparé au casting de Smash Bros. Ultimate est pas aussi glorieux. Mais très sincèrement, je pense que c'est le moment pivot dans l'histoire de Smash Bros. Qui a ensuite servi d'exemple pour le reste de la licence, aussi bien en matière d'intro qu'en matière, on va dire, de théâtralisation de sa propre importance, avec la musique, les chœurs, bien évidemment la virtuosité de la musique, qui est vraiment excellente, la musique d'intro, mais aussi tout le symbolisme visuel, mélanger les différents personnages, les faire se combattre à l'écran. C'est clair que c'est quelque chose qu'ils voyaient dans l'intro de Smash Bros. 64, mais c'était beaucoup plus caricatural, centré sur Créamain ou Démaniaque, je ne sais plus laquelle des deux. En tout cas, le gant volant Créamain qui mettait en place sa petite scène de combat, qui comptait avec ses doigts 3-2-1 go et qui faisait se battre les figurines Nintendo. Là, c'est beaucoup plus basé sur les deux. Oui, c'est des figurines qui sont passées à la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut bien de faire? Et maintenant, regarde, elles sont là dans toute leur gloire, ces célébrités Nintendo, et elles vont se battre. Aussi bien la musique que, et pour moi, ça reste franchement vissé dans ma tête, le moment où l'écran, au lieu de te montrer l'image, au lieu de te montrer un personnage ou un univers Nintendo, te montre juste ce texte entre deux crochets: Get ready! Préparez-vous! Préparez-vous à la mêlée, et ça résume en fait complètement ce à quoi sert cette introduction. Elle sert à te dire, ça, c'est un jeu spécial, c'est un jeu qui réunit plein d'univers différents, c'est un jeu qui a été travaillé de fond en comble pour faire hommage à différentes licences, c'est un jeu qui date quand même maintenant d'il y a quasiment 20 ans et qui n'a pas perdu de sa superbe. Donc c'est pour ça que pour moi Smash Bros. Melee méritait une mention malgré le fait qu'il n'était pas dans le top 5. Pour toi, dans ton bac à cartouches, qu'est-ce qui reste?
Oui, bah, je vais aller vite, hein. Il y avait quelques titres notamment avec lesquels j'ai hésité. Chez Zelda, j'ai aussi beaucoup hésité avec Ocarina of Time. Avec cette Navy qui traverse du coup le village Kokiri, et tu ressens en fait cet attachement à la 3D, mais c'était déjà présent en fait dans Mario 64. Donc pour moi, on retrouve en fait la même thématique du on va s'approprier un monde en 3D, et vous voyez le passage à la 3D de la comment dire de la licence. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Majora's Mask. Là, pour le coup, ce qui m'a plu, c'est le côté on vous présente cet épisode, il sera très différent. Tu peux le voir déjà dans les mouvements du vendeur de masques, qui sont assez erratiques, hein. Il n'y a pas de transition dans ces mouvements dans l'introduction. Ce côté très cauchemardesque, cet univers très différent, c'est une excellente introduction, très déstabilisante en fait quand tu connais la série. Et c'est ça qui rend aussi intéressant. Mais j'ai préféré choisir A Link to the Past, qui pour moi avait une incidence beaucoup plus forte à l'époque. Et j'avais également pensé à Final Fantasy VII, ce que j'apprécie beaucoup en fait. C'est la transition pour le coup entre le gigantisme où tu vois Midgar, donc l'énorme Midgar, là, cette métropole gigantesque, avec ce zoom qui n'en finit pas, qui n'en finit pas, qui n'en finit pas, avec ce train qui arrive en gare et tu sors de la gare et paf, tu es dans le jeu. Donc là, c'est-à-dire qu'on on te fait venir, on te fait vraiment entrer dans le jeu et tu pars de l'infiniment grand vers l'humain et c'est extrêmement fascinant aussi cette façon de faire et t'es tout de suite aussi là dans l'action. Je trouve que ce sont des manières d'entrer dans le jeu immédiat stress complètement et qui fonctionnent extrêmement bien, en tout cas sur moi, et que j'aime beaucoup avoir. Là aussi, ça m'évoque aussi BioShock, pour le coup, le tout premier BioShock, qui commence par ce crash d'avion et ce phare comme seule solution. J'aime bien, même si ça manque peut-être un tout petit peu de mise en scène, c'est volontaire, hein, parce que toute la mise en scène vient du gameplay dans BioShock et dans les éléments autour, mais la mise en scène vient justement du fait que le joueur est actif pendant ces éléments. C'est ce qui le rend intéressant, d'autant plus quand tu connais les révélations de la fin du jeu, je vais pas vous spoiler. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'avais envie d'évoquer, en tout cas parmi les intros, mais qui ne sont pas rentrées dans mon top.
Bien, merci Lou pour tout ça. C'est la fin de ce pilote du Top Cartouche. Merci de l'avoir écouté. Ce pilote fait partie de cette petite série d'été de deux épisodes qu'on appelle Cartouche Labs. À la publication du prochain, dans quelques jours, très prochainement, vous aurez l'occasion de voter pour votre pilote préféré, donc soit le Top Cartouche, soit le format que vous découvrirez très prochainement. Je vous encourage vraiment à aller voter pour que vous soyez un maximum à donner votre avis et pour voir vraiment là où vous situez par rapport à tout ça. Le lien sera disponible évidemment dans la page de cet épisode dès que le sondage sera lancé à la publication du second pilote. On vous dit à bientôt, passez un très bel été en notre compagnie. Ciao ciao.
Salut à tous.